L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local avec quelques petits loupés au niveau du micro. On n'a peut-être pas tout à fait bien entendu, mais donc vous êtes bien sur l'autre radio dans votre émission quotidienne L'AJT du local. Et on est aussi en duplex de Laval. Bonjour Claire.
Bonjour à tous.
Tout va bien ?
Bah oui, super. Il fait un beau temps aujourd'hui, donc c'est nickel.
Très bien, donc on te retrouvera en fin d'émission pour notre nouvelle rubrique autour des initiatives autour du confinement. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Et donc aujourd'hui, on va vous parler entre autres donc de ces initiatives, mais aussi des commerçants qui essaient de tirer leur épingle du jeu en vendant leurs produits en ligne. La CCI organise des formations pour s'approprier la plateforme web Ma Ville Mon Shopping. Valérie Ayer, députée européenne mayonnaise, nous parlera de son expérience à Bruxelles et des gros dossiers sur lesquels elle travaille. Et pour le troisième épisode de notre série sur le stage Girls or Coding, vous aurez le droit à un petit cours accéléré de codage informatique. Mais tout de suite, un point sur l'actualité en Mayenne. Les chiffres de la Covid toujours en hausse dans la région. Selon l'Agence régionale de santé, le nombre des personnes hospitalisées s'élève à 300. Pardon. le taux d'incidence est donc de 344 pour 100 000 habitants en Mayenne, avec un taux de positivité qui a dépassé la barre des 20%. Et donc des chiffres, on le disait, toujours en hausse depuis quelques jours. Les élus mayennais continuent d'afficher leur soutien aux commerces locaux. L'Association départementale des maires de France veut mettre en avant les bonnes pratiques pour pallier cette situation pénalisante, avec comme par exemple le Click and Collect à Château-Gontier-sur-Mayenne. Les élus municipaux estiment la fermeture administrative des commerçants disproportionnée. Ils appellent le gouvernement à laisser plus de latitude aux acteurs locaux. Yannick Favennec, lui, le député du Nord-Mayenne, souhaite que les préfets et non plus le gouvernement prennent la main sur une éventuelle réouverture des commerces de proximité quand les conditions sanitaires sont réunies. Il vient de déposer un amendement au texte de prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour, dit-il, prendre en compte les situations locales telles que celles de nos petits bourgs ruraux ou de nos petites villes, où l'ouverture d'un commerce ne saurait attirer une clientèle si nombreuse qu'elle puisse mettre en péril la sécurité sanitaire. Fin de citation. Le festival alimentaire se poursuit sur Internet. À défaut de pouvoir profiter des films et documentaires en salle de cinéma, vous pourrez regarder une partie de la sélection en ligne. Sélection donc qui met en avant des films qui mêlent protection de l'environnement et alimentation. À regarder via la plateforme gratuite Imago, il suffit tout simplement de s'y connecter et de s'inscrire. On le disait, les petits commerçants tirent la sonnette d'alarme. S'ils ne vendent pas de produits dits essentiels, ils ont interdiction d'ouvrir leurs portes depuis vendredi, début du confinement. Pour faire face à ce problème, la Chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne incite les commerçants à s'inscrire sur Ma Ville Mon Shopping, une plateforme web qui leur permet de vendre leurs produits à distance, pardon. Mais encore faut-il bien apprivoiser l'outil ? Une formation a eu lieu ce lundi à Château-Gontier avec une quinzaine de commerçants et d'artisans. Parmi eux, Mathilde Prodhomme, elle est coiffeuse à Château-Gontier.
Donc je suis venue pour essayer de vendre des produits et puis dynamiser ma page internet du coup. Face à ce confinement, je suis un peu stressée à l'idée de fermer le mois de novembre. Donc là, je vais mettre en place les couleurs, du coup, préparation des couleurs, et puis tout ce qui est produit aux alentours. Je pensais qu'ils allaient mettre en place un confinement le week-end et fermer plus tôt, par exemple, à 18h le soir, mais pas la fermeture complète des commerces. Bah, c'est une perte de chiffre d'affaires de 5 000 euros, 6 000 euros. Si on ferme le mois de décembre, bah, c'est mon plus gros chiffre d'affaires pour moi, la coiffure. Maintenant, on peut faire beaucoup de choses par Internet. C'est vrai qu'on oublie un petit peu quand on est dans notre salon de coiffure. Moi, je suis pas trop Internet. Et là, bah, ça permet de rebondir. Je l'avais pas fait au premier confinement. Et du coup, bah, là, ça me permet de rebondir. Et c'est vrai qu'il y a plein de possibilités, en fait. Donc, j'ai la possibilité de livrer mes produits au domicile de la cliente. Ou en click and collect, récupère sa commande au salon de coiffure. Ça fait du bien en fait de se voir et se dire que bon, on n'est pas tout seul non plus quoi. Ça nous rassure quelque part.
Depuis quelques jours, le nombre de commerces inscrits sur la plateforme a bondi. Aujourd'hui, ils sont près de 200 sur tout le département, avec des profils très diversifiés, confirme Patricia Lavin. Elle est chargée de mission commerce à la CCI de la Mayenne.
Très varié, hein. Ça ressemble à un centre-ville, donc il y avait l'équipement de la personne, de la déco, du service, de l'institut de beauté, un peu de restauration là. Là, il y a une photographe, donc c'est assez varié. C'est ce qu'on veut, en fait, c'est une diversité sur le site pour retrouver l'offre de la Mayenne. Voilà, généralement, la boutique virtuelle, elle ressemble aussi à la boutique physique, donc ils ont une idée de ce qu'ils veulent mettre comme produit. Après, c'est peut-être plutôt un blocage un peu technique au début qu'il faut déverrouiller, et puis c'est parti. Aujourd'hui, le commerce physique, il est aussi sur les réseaux sociaux, et donc... Là, c'est un peu la même démarche. Hein. Faut suivre les étapes. C'est pas forcément très compliqué, mais elle permet aux commerçants de pouvoir vendre directement des produits en ligne. Donc, c'est sécurisé, le paiement est sécurisé, et de proposer soit le click and collect. Donc, je viens chercher le produit en magasin. Ça, c'est autorisé dans la réglementation, ou la livraison par le facteur ou par le commerçant. Bah, c'est une solution de pouvoir maintenir une activité économique, en fait.
D'autres sessions de formation autour de Ma Ville, Mon Shopping auront lieu un peu partout en Mayenne. Il est conseillé de venir avec son ordinateur et des photos de ses produits. À Château-Gontier, vous pouvez vous inscrire au 02 43 09 55 58. Quel bilan tirer après un an de mandat européen ? Réponse avec l'eurodéputée Valérie Ayer d'ici quelques minutes, le temps d'écouter Exits de Falls. c'était Falls sur l'autre radio. Vous écoutez bien l'agité du local. Politique agricole commune, plan de relance européen ou encore gestion de la pandémie à 27. Autant de sujets que nous avons évoqués avec l'eurodéputée mayennaise Valérie Ayé. L'interview a été enregistrée il y a quelques jours et on l'écoute tout de suite. Après un an de mandat européen, quel bilan ? C'est la question que nous allons poser à Valérie Ayé, députée européenne La République En Marche, qui fait partie du groupe Renew. À l'occasion d'une vidéoconférence sur le sujet organisée par la Maison de l'Europe en Mayenne. Bonjour Valérie Ayé.
Bonjour.
Face à la deuxième vague dans la pandémie de Covid-19, l'Europe se reconfine, donc forcément la France, bien entendu, mais aussi l'Irlande, le Pays de Galles depuis mercredi. En Allemagne, les restaurants et institutions culturelles sont fermés à partir de lundi. Un couvre-feu a été instauré en Espagne. Est-ce que ces mesures étaient vraiment inévitables pour vous pour faire face à cette seconde vague ?
Malheureusement, je pense que oui, elles étaient inévitables, compte tenu de la seconde vague qui arrive et qui est très rude. On voit que le nombre de contaminations explose en France, mais partout en Europe. Et alors j'entends certains, partout en Europe d'ailleurs, pas seulement en France, critiquer les mesures prises aujourd'hui, déplorer qu'il y ait eu un manque d'anticipation. La réalité, c'est que personne ne connaissait ce virus et personne ne pouvait anticiper ce virus, ni la première, ni la deuxième vague. Donc, moi, je vois qu'à l'échelle de l'Union européenne, des mesures ont été prises, que, bien sûr, il y a une nécessité d'adaptation, de rendre opérationnelles des mesures qui sont nouvelles et qui nécessitent que nous nous organisions et nous nous responsabilisions tous collectivement, mais c'est absolument nécessaire pour espérer combattre ce virus.
Qu'il y ait cette coordination européenne, pour vous, c'est vraiment très important, même si, en fait, chacun des 27 pays est touché à des degrés divers, parfois ?
Oui, la coordination, elle est absolument indispensable. On a vu, lors de la première vague, une certaine cacophonie à l'échelle de l'Union européenne, avec des fermetures de frontières, par exemple. Et là, les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis cette semaine pour justement coordonner la réponse à la crise sanitaire, notamment pour avoir des règles communes en matière de quarantaine, pour la recherche transfrontière des contacts, pour les stratégies de dépistage, etc. Et ça, ce sera une étape indispensable et absolument essentielle dans la lutte contre le coronavirus. Et puis, ils ont décidé collectivement qu'il n'y aurait pas de fermeture des frontières entre les pays membres de l'Union européenne. Ça, ce sera une avancée majeure. Et avec des travaux également sur la coordination et les liens entre les plateformes, les applications numériques de traçage entre les différents pays. Pour les gens qui habitent en zone transfrontalière, notamment, c'est absolument indispensable. Et puis, bien sûr, en coordination, un sujet essentiel pour tous les Européens et pour à l'échelle mondiale aussi, des travaux menés pour trouver un vaccin. Et là, c'est une majorité des pays membres qui ont été mobilisés pour financer la recherche pour le vaccin, en espérant qu'on aura un vaccin en début d'année prochaine.
Ça, effectivement, on n'est pas encore fixé, mais on l'espère. Au-delà de cette actualité brûlante, on va revenir sur votre engagement au niveau européen, donc qui est forcément lié à ce qu'on vient de dire, hein. Depuis votre élection fin mai 2019, donc un an et même un peu plus de mandat européen, avec déjà pas mal de dossiers sur la table, et notamment ce plan de relance pour faire face à la crise économique à cause, justement, de la Covid. C'était une victoire déjà d'avoir réussi à s'accorder sur une enveloppe commune de 750 milliards d'euros.
Absolument. Ce plan de relance, c'était une idée du Parlement européen. Nous avions appelé les États membres à engager un plan de relance pour répondre à la crise économique et sociale qui a frappé d'ailleurs dès le début de la crise. Et puis, il y a une initiative qui a été absolument majeure et qui a eu un effet, qui a créé une étape fondamentale en vue de la mise en œuvre de ce plan de relance, c'est l'initiative franco-allemande, le président Macron et la chancelière Merkel, qui ont adopté une position commune en faveur de ce plan de relance, qui a permis ensuite à la Commission de faire une proposition ambitieuse et aux chefs d'État et de gouvernement de tomber sur un accord conclu de haute lutte après 5 jours de conseil au mois de juillet. Et c'est une étape absolument historique, inédite dans la construction européenne. ces 750 milliards d'euros. L'enjeu maintenant, c'est qu'ils arrivent le plus vite possible sur le terrain pour aider les entreprises, les associations, les personnes qui sont les plus fragiles.
Comment financer donc ce plan de relance? Quelles sont les pistes déjà envisagées?
Alors, c'est un sujet sur lequel je travaillais déjà avant la crise du Covid et avant le plan de relance. Et c'est une innovation absolument majeure, un pas historique dans la construction européenne. Ce plan de relance, sur quoi les chefs d'État et de gouvernement se sont mis d'accord cet été, et ce sur quoi moi je travaille avec mes collègues au Parlement européen dans les négociations aujourd'hui qui ont lieu en ce moment même avec les États membres, c'est de mettre en place des nouvelles ressources propres. Des nouvelles ressources propres, c'est quoi? Ce sont les recettes qui appartiendront demain en propre à l'Union européenne. Et l'idée, c'est de dire, le plan de relance, il ne doit pas être payé par les citoyens européens. Le plan de relance, il doit être payé par ceux qui aujourd'hui ne paient pas leur juste part d'impôts, c'est-à-dire les géants du numérique, les entreprises chinoises qui polluent ou les entreprises, les institutions financières qui spéculent. Et ça, il y a eu un accord politique en juillet entre les chefs d'État et de gouvernement. Nous, dans les négociations aujourd'hui que nous menons en tant que Parlement européen, nous souhaitons transformer cet accord politique en un accord juridiquement contraignant pour nous assurer que il y aura bien demain une taxe sur les géants du numérique, il y aura bien demain ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui seront les moyens de protéger les Européens et aussi de ramener de la justice fiscale.
Et donc ça, pour l'instant, cet accord juridiquement contraignant, il va arriver dans les prochains mois. On en est où exactement?
Alors j'y travaille beaucoup ces derniers jours et depuis cet été en fait. Le Parlement européen, avec mon co-rapporteur sur les ressources propres, nous avons travaillé tout l'été pour avancer sur cette question des ressources propres et pour permettre à la Commission d'aller chercher l'argent sur les marchés pour pouvoir lancer ce plan de relance. Et aujourd'hui, nous négocions avec les chefs d'État et de gouvernement. J'espère que nous trouverons un accord dans les 15 prochains jours pour finaliser cet engagement juridiquement contraignant par les États membres d'avancer sur chacune de ces nouvelles ressources propres. Donc, ça fait quelques semaines et quelques mois qu'on y travaille, et quelques jours et quelques nuits. Et donc, la semaine prochaine, vraisemblablement, je vais me rendre à Bruxelles pour pouvoir négocier avec les représentants des États membres. Aujourd'hui, il y a trois manières de rembourser le plan de relance. De payer l'emprunt qui va être contracté par la Commission européenne pour faire face à la crise, soit on augmente ce qu'on appelle les contributions nationales, c'est-à-dire la part de financement des États membres au budget européen. Ça veut dire on augmente les impôts sur les citoyens européens. Nous le refusons. Soit on va couper dans le budget européen, c'est-à-dire qu'on pourrait couper sur Erasmus, sur la PAC, sur les crédits alloués à la recherche, et ça, évidemment, on le refuse. Donc, la option, c'est celle des nouvelles ressources propres. Et je crois que ça va dans le bon sens. Les négociations qu'on mène depuis plusieurs semaines vont dans le bon sens sur cette question-là, donc je suis confiante.
Donc ce sera évidemment un dossier à suivre les prochains jours et les prochaines semaines. Un autre gros dossier, donc très attendu, entre autres ici en Mayenne, c'est la PAC, la politique agricole commune, dont les rapports ont été votés il y a une semaine justement au Parlement européen. Une PAC qui, dites-vous, n'a jamais été aussi verte. Pourquoi?
Oui, alors, effectivement, c'est un gros dossier important pour le tissu agricole et le tissu économique mayennais, mais important, extrêmement important pour la France. Et je dirais, en plus, à l'aune de la crise qu'on a connue, qui a révélé les enjeux de souveraineté alimentaire. Cette PAC, elle vise à répondre à trois enjeux. Assurer un revenu digne et élevé pour les agriculteurs, c'est-à-dire protéger les agriculteurs, protéger les consommateurs, avec une alimentation plus saine, et protéger la planète avec une PAC plus verte. Cette PAC, effectivement, elle n'a jamais été aussi verte. Pourquoi? Parce qu'avec cette PAC, on met en place ce qu'on appelle des éco-régimes, c'est-à-dire un bonus pour les bonnes pratiques environnementales. Donc le Parlement européen, nous avons décidé que 30% des aides directes aux agriculteurs seraient renforcées via ce bonus. Il y a aussi, alors sans être trop technique, il y a aussi dans la PAC, il y a le premier pilier, les aides directes, et le deuxième pilier. Et ce deuxième pilier sera dédié à l'environnement et au climat à hauteur de 35%. Et par ailleurs, cette PAC s'inscrit dans ce que la commission a appelé la stratégie de la ferme à la fourchette, qui contient différents objectifs, notamment l'objectif de réduction de 50% de l'utilisation des pesticides d'ici 2030, ou l'augmentation à 25% des produits issus de l'agriculture biologique d'ici 10 ans. Donc très clairement, cette nouvelle PAC, elle n'aura jamais été aussi verte, et elle est le fruit des négociations difficiles au sein du Parlement européen, mais ça n'est pas fini, puisque au même moment, les États membres se sont réunis et ont trouvé un accord sur la PAC qu'ils voulaient défendre. Et donc la prochaine étape, c'est quoi? C'est une réunion entre, ou des réunions entre le Parlement européen, représenté par des députés européens, le Conseil, représenté par des représentants des États membres, pour négocier sur ce que sera la PAC à compter de 2023.
Puisque c'est ça, en fait, tout ça, ça va concerner les agriculteurs et donc la distribution, entre guillemets, enfin, l'attribution plutôt des aides à partir de 2023. Si on s'intéresse aux agriculteurs mayennais, est-ce que cette aide PAC sera toujours maintenue à un tel niveau, puisque le budget, je crois, était autour de 120 millions d'euros, en tout cas pour les agriculteurs mayennais?
Oui, effectivement, en 2019, les agriculteurs mayennais ont touché 120 millions d'euros d'aide PAC. Sur 9500 actifs agricoles, c'est dire l'enjeu des crédits PAC dans notre département. Et avant, aujourd'hui, c'est la bataille liée aux modalités de la PAC qui se joue, qui s'est jouée la semaine dernière et qui va se jouer dans les prochaines semaines. Et cet été, il y a eu la bataille budgétaire pour préserver le budget global alloué à la PAC. Et la France s'est largement battue pour préserver le montant actuel de la PAC parce que certains États membres n'ont pas la même vision de la politique agricole commune que nous, que celle que nous portons en France. Et certains auraient aimé qu'on ait des crédits moins importants à affecter à la PAC. Donc cette première bataille budgétaire, elle a été gagnée et elle devrait assurer un revenu équivalent sur la période aux agriculteurs mayennais.
Donc effectivement, rien n'est assuré puisque c'est tout un processus et il y aura cette prochaine réunion tripartite comme vous le disiez. Là, moi j'ai choisi donc deux dossiers en particulier sur cet un an et demi de mandat européen. Mais si vous deviez faire un bilan de cette première expérience de députée européenne, qu'est-ce que vous retiendriez?
Alors d'abord, le Parlement européen, c'est un peu une tour de Babel avec différentes langues, différentes nationalités. Et ce que je retiens, c'est cette logique du compromis. Au-delà des dossiers sur lesquels on a travaillé, c'est que c'est une logique du compromis qui est qu'on connaît mal en France, ou peu en France. Parce qu'en France, on a l'habitude de voir des scènes à l'Assemblée nationale ou au Sénat où les parlementaires s'écharpent et sont parfois dans des postures. Au Parlement européen, c'est cette logique du compromis qui prime. Cette idée de comprendre quels sont comprendre l'autre, et à partir de ça, de trouver une solution qui réponde aux problématiques posées par chacune des parties. Et ça, c'est vraiment une des qualités et ce qui fait la force, je crois, du Parlement européen pour déboucher sur des compromis qui soient les plus équilibrés possibles entre les différentes exigences. Par exemple, sur la PAC, on l'a vu, il y avait trois exigences, le revenu des agriculteurs, la protection de la planète, la protection des consommateurs. Et sur beaucoup de sujets, ce qui est extrêmement intéressant, je trouve, notamment sur les sujets budgétaires qui sont les miens, c'est que il y a des groupes politiques au Parlement européen, comme il y a dans tous les parlements nationaux, mais au Parlement européen, sur beaucoup de sujets, ce n'est pas les groupes politiques qui font la position des députés européens. Souvent, les approches dépendent des nationalités. On voit par exemple que les députés qui sont issus d'États du nord de l'Europe sont très libéraux. Ils veulent qu'on ait le moins de règles possible. Chez nous, en France, on veut, quand on est député français, on veut des règles, on veut protéger le consommateur, on veut protéger les salariés. Et voilà, ce sont deux exemples qui font que parfois on a des approches totalement différentes et qu'il faut que nous devons trouver au Parlement européen un terrain d'entente pour assurer ces différents équilibres. Je voudrais aussi dire que, à la faveur de la crise, il y a tout un ensemble de tabous qui ont sauté. Et moi, je l'ai vu chez mes collègues, certains de mes collègues députés européens. Pour certains, le mot de souveraineté, qui est un mot historiquement et une idée historiquement portée par la France, le mot de souveraineté était un gros mot avant la crise. Aujourd'hui, certains de mes collègues acceptent que, bien sûr, l'enjeu de souveraineté alimentaire, de souveraineté technologique, d'indépendance par rapport au reste du monde est important. Sur les questions budgétaires aussi, certains considéraient qu'on ne pouvait pas, par principe, avancer sur un emprunt en commun. Ça a été possible. Donc les lignes bougent au Parlement européen et des lignes bougent à l'échelle de l'Union européenne et je trouve que c'est extrêmement intéressant. L'Europe est une puissance qui s'est trop souvent et trop longtemps ignorée et c'est en train de changer.
En tout cas, oui, je retiens de ce que vous me dites deux mots, compromis et souveraineté. Et puis, juste un petit mot, puisque en parallèle, vous êtes aussi toujours conseillère départementale de la Mayenne. Comment est-ce qu'au quotidien, vous jonglez entre Bruxelles et ici, la Mayenne ?
Je suis très attachée à mon département, à mon engagement local. Et pour moi, c'est extrêmement important d'avoir ce lien avec le territoire. Parce que, en l'occurrence, je négocie en ce moment des centaines et des milliers de milliards d'euros. Mais ce qui m'importe, c'est que ces négociations, elles aient des implications directes sur le terrain. Donc évidemment, j'ai des contacts réguliers et directs et hebdomadaires avec des maires, avec des commerçants, avec des habitants, avec des Mayennais. Et c'est ce qui fait, je crois, la force du mandat parlementaire aussi.
Donc toujours de pouvoir avoir un pied en Mayenne et un pied à Bruxelles au Parlement européen. Merci beaucoup Valérie Hayet d'avoir été avec nous. On le rappelle, vous êtes donc députée européenne depuis mai 2019.
En retard, les deux pieds sur le quai de gare, je vois mon train qui s'en va, encore que je prendrai pas. J'ai peut-être pas compris l'horaire, paraît que je le lis à l'envers. Qu'est-ce que je fais de ma journée, y'a même pas d'homme qui perd. J'ai pourtant bien tout essayé, des magazines, séries télé, mais non, rien à su y faire. Je suis toujours la première à tout trouver compliqué, à tout mélanger. Allô, allô, la terre, je vous en prie, vous laissez pas. J'ai bien été voir un psy, mais j'y ai rien compris. Demain, je me refais les seins, puisque je suis bonne à rien. Ah, j'ai pas le sens des affaires, ni de l'orientation. Au pire, je me perds, au mieux, je tourne en rond. Ah, j'ai pourtant bien tout essayé. Des magazines, des séries télé, mais non, rien à su y faire. Je suis toujours la première à tout trouver compliqué, à tout mélanger. Une attaque blondinesque à ma façon. Je vais réunir mes semblables et de par le monde, on s'en ira criant. Vive les bleus. On teindra chaque tête une à une. On regardera cruel et indécente s'étendre nos lacunes. Ce sera la guerre. Et comme il n'y en a pas d'intelligente, et ben y a pas de risque que je me plante. Alors
sur l'autre radio, vous écoutez l'agité du local. Et depuis lundi, on zoome sur la semaine de stage Girls in Coding à Laval, une initiation au codage informatique qui a eu lieu la semaine dernière, juste avant le confinement. Une vingtaine de jeunes filles, de la quatrième à la première, ont découvert ou approfondi leurs connaissances en robotique, programmation de jeux vidéo ou codage. Et d'ailleurs, moi j'en ai profité pour prendre un petit cours accéléré avec Oriane pour faire sa propre page web.
Faut bien comprendre les bases et comment ça fonctionne. En fait, c'est beaucoup, c'est des boîtes, dans des boîtes, dans des boîtes, dans des boîtes. Tu vas faire d'abord la grande boîte où c'est le body, c'est-à-dire le corps, tout ce qu'on va voir. Ensuite, dedans, tu vas mettre, tu auras un groupe, ce sera l'introduction. Un groupe, ce sera le texte. Ensuite, tu mettras dans l'intro, tu auras deux petits textes. C'est beaucoup des boîtes dans des boîtes, dans des boîtes, dans des boîtes. Ensuite, du coup, tu as quelque chose comme ça. Et pour que ça apparaisse beau, il faut que tu fasses un autre dossier CSS. Le dossier CSS, qui est ce qui va mettre tout beau, parce que quand tu as juste ça, en fait, ce qui va apparaître, c'est des écritures noires à la ligne, les unes en dessous des autres. Donc, c'est pas génial. Et le CSS, ça va te permettre, du coup, là, je mets body, c'est-à-dire c'est tout le corps, tout ce qui va apparaître à l'écran. Je veux que tout soit en Arial et en noir. Et ensuite, je mettrai le haut de mon site, later, je veux que ce soit centré, je veux que ce soit comme ça. Et ensuite, du coup, toutes mes sous-parties, par exemple, là, mes petites sous-parties, ma sous-partie box, ce sera codé par un truc précis. En début de semaine, on a donné des feuilles, enfin une sorte de lexique HTML de base. Par exemple, là, on voit qu'il y a beaucoup de H1, H2. En gros, c'est des titres. H1, ce sera un gros titre. H2, ce sera un titre un peu plus petit. H3, ce sera un titre encore un peu plus petit, etc. P, c'est les paragraphes. On avait comme ça un lexique de mots de base. On avait aussi beaucoup d'intervenants et les professeurs qui venaient nous aider quand on comprenait pas. Donc c'était bien. Mais par exemple, si t'as juste mal mis quelque chose, par exemple la marge, si t'as mal écrit la marge, et ben ton site, il va se retrouver tout collé, tu vas pas comprendre pourquoi. Et en fait, c'est juste une ligne qui est pas bonne. Et du coup, ça peut tout enlever. Ouais, on avait 2 jours où on était vraiment à fond HTML, mais après on pouvait faire des pauses, donc ça dépend des gens. Une fois que t'as posé les bases, ça va vite, parce que tu peux faire des copier-coller, tu peux recommencer, etc. Mais c'est les bases qui sont assez longues, parce qu'il faut tout mettre en place pour que le reste fonctionne bien. On est parti de ça. Il n'y avait rien du tout. On est parti de rien. J'en avais déjà fait avant, donc ça a été plutôt assez simple. Mais je sais que la première fois que j'en ai fait, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Quand tu commences par une page blanche et que tu vois qu'il faut noter une ligne pour ça, une ligne pour ça, une ligne pour ça, qu'il y a tous les mots différents, t'as l'impression que tu vas jamais y arriver. Ça paraît assez insurmontable au début. Bah, j'aime bien ça, donc ça me dérangerait pas d'en refaire. Après, je sais pas si je veux forcément en faire dans le milieu professionnel. Vu qu'on a eu pas mal d'interventions avec des professionnels vraiment du code, des personnes professionnelles qui faisaient vraiment des sites, des personnes qui faisaient réellement des jeux vidéo, du coup, ça permettait... En plus de le faire nous-mêmes, ça permettait de voir où est-ce que ça pouvait nous amener plus concrètement.
Et notre série se poursuit demain avec un autre témoignage d'une stagiaire. C'est maintenant l'heure de notre rubrique autour des belles initiatives en ces temps de reconfinement. Claire, qu'as-tu trouvé ce mercredi ?
Alors, on commence ce journal d'initiative avec, pour les nouveaux arrivants sur Laval, les web cafés. Normalement en présentiel, ces rendez-vous de discussion autour de la vie à Laval, des offres d'emploi, sont dès à présent en vision conférence. Nouveaux résidents de Laval, rendez-vous donc sur le site WeEvent et tapez web café d'accueil des nouveaux arrivants. Retrouvez votre restaurant préféré en bocaux. C'est ce que propose le marché alimentaire de la ville d'Évron. Adrien Barrière est le chef du restaurant L'Effet Papy à Laval et propose tous les jeudis des plats bistronomiques sur le marché. Les Évronais pourront déguster entrées, plats et desserts, donc tous les jeudis directement au marché. Le refuge de l'Arche lance un appel aux dons. Le refuge est fermé au public, mais reste mobilisé pour prendre soin de ses 1200 pensionnaires. Évidemment, sans visiteurs, le refuge manque donc de ressources financières, ce qui impacte directement le bien-être des animaux. Pour faire un don, rendez-vous sur le site refuge-arche.org. Dans la commune de Méral, on démarre un défi photo. Le défi est proposé aux habitants du village. Ils sont invités à faire des photos depuis chez eux, bien sûr, avec comme thème automne et Halloween pour faire peur au virus. Ce projet donnera comme au premier confinement une carte postale géante, une idée éclairée pour combattre le virus depuis chez vous. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Marie.
Merci Claire, effectivement ça donne des petites idées, même là on est mercredi pour occuper les enfants, pourquoi pas voilà, participer à ce petit concours photo. C'est la fin de notre émission L'Agité du local, à suivre à 19h Novorama, suivi de Chaosphère à 21h, un Chaosphère 100% trash dont 7 reprises. Claire, à demain et merci.
À demain.
Toujours de Laval. Et puis donc, à tous, rendez-vous à 12h15 pour une prochaine édition de l'Agité du local. D'ici là, prenez soin de vous et bonne fin d'après-midi. Bonne fin de journée d'ailleurs, ça marche aussi. Allez, à demain.
Reportage.
Invité. Interview.
Voilà, c'est l'Agité du local.